des dyslexiques dans ma classe? Oui, mais comment? Ce podcast se propose d'apporter des réponses concrètes à la mise en place de séquences d'art plastique en classe. Il s'adresse principalement aux professeurs du premier degré en formation ou déjà en exercice. Comment s'adapter à son public? Comment travailler avec les moyens matériels de son école et de sa classe? Comment aborder les grandes notions d'art plastique avec les élèves? Pour parler de cela, nous retrouvons Thomas et Caroline.
Épisode 2, autour du beau en art plastique. Avec Caroline Mélis, formatrice en art plastique à l'INSPE de Saint-Étienne.
Et Thomas Gérard, conseiller pédagogique départemental en art et culture, département de la Loire.
Bonjour Caroline.
Bonjour Thomas.
Nous sommes réunis pour le deuxième épisode de notre podcast « Faire des arts plastiques dans ma classe ». Oui, mais comment?
Et nous allons aujourd'hui parler de la notion de beau en art plastique.
Caroline, pour commencer, comment appeler ce que l'élève fait en art plastique? Une œuvre? Une production?
Quand on parle des travaux des élèves, on va plutôt parler de réalisation ou de production plastique. En fait, c'est ce qui permet aussi de faire la différence avec une œuvre d'artiste reconnu. C'est important car on ne forme pas des artistes. On n'est pas en école des beaux-arts. Ce sont de jeunes enfants dans un contexte scolaire. Et on n'attend pas d'eux qu'ils produisent des œuvres, mais des réalisations plastiques où ils se sont questionnés, où ils ont eu des intentions et où ils ont pris des décisions.
Mais alors, Caroline, comment casser les stéréotypes d'esthétisme? Car même jeunes, les élèves peuvent déjà avoir des idées très arrêtées.
C'est vrai que c'est difficile. Car très vite, dès le CP, les enfants ont une vision, une idée de ce qui est beau et de ce qui ne l'est pas. La plupart du temps, cela correspond à des stéréotypes sur l'art. Cette première idée du beau est en réalité très influencée par la vision de l'adulte. On pourrait dire qu'avant d'avoir une intention de l'ordre de l'esthétisme, les enfants ont en premier lieu une volonté de faire plaisir aux adultes, aux parents, aux professeurs. C'est là que commence à se construire ce que tu entends par l'idée du beau. Et cela est la plupart du temps avec une certaine forme d'art. De l'art que l'on pourrait qualifier aujourd'hui de traditionnel, d'ancien. C'est-à-dire des tableaux que les élèves vont qualifier de bien peints, où on reconnaît ce qui est représenté avec un cadre autour. Ou alors une sculpture en marbre extrêmement identifiable.
Et tu penses que c'est grave pour une entrée dans l'art?
En fait, non. Ces formes d'art sont tout à fait importantes dans l'histoire. Mais elles reflètent une expression artistique qui est plutôt celle présente jusqu'au XIXe siècle. À partir de la deuxième moitié de ce siècle, les choses changent, évoluent, se transforment, car la société se transforme. La révolution industrielle, les avancées techniques font que l'art, qui est une expression de son époque, va lui aussi évoluer vers d'autres formes d'expression, ou tout simplement faire évoluer les formes traditionnelles que l'on peut rattacher à la peinture ou à la sculpture. En fait, la maîtrise d'un savoir-faire n'est plus nécessairement un attendu dans une œuvre.
Mais alors, est-ce que c'est quand même possible de donner une définition du beau en art plastique?
En fait, on n'en donne pas vraiment. Il faut bien différencier une approche philosophique et esthétique qui peut tenter d'en donner une définition et l'enseignement des arts plastiques qui, lui, ne va pas en donner. Non pas qu'il ne s'y intéresse pas, mais surtout car son objectif est plus de donner des moyens aux élèves d'avoir des outils propres à chacun pour se construire un jugement critique et sensible.
Mais pourquoi?
Tout simplement parce que ce n'est pas un objectif. Ce n'est pas un objectif d'apprentissage et ce n'est pas un objectif de réalisation. Le but est vraiment d'amener les élèves à comprendre, à accepter que l'apparence, l'esthétique, le bienfait, ce sont des choses subjectives. Ce n'est pas ce qui est visé et ce qui nous intéresse, ce sont les intentions, la réflexion que l'on met derrière une production, plus que son apparence bien faite. C'est aussi un moyen de participer à l'acceptation de la diversité, de l'autre et d'accepter autrui. On ne cherche pas à formaliser, à faire entrer dans des cadres et des stéréotypes, mais au contraire à élargir le champ des possibles. En fait, en cela, les arts plastiques sont une discipline forte qui participe à la construction du citoyen et a toute sa place dans le socle commun.
Mais l'élève a quand même toujours envie de bien faire. Il a envie que sa production plaise à son maître ou à sa maîtresse, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et comment je dois réagir alors face à un élève qui me dit « c'est pas beau ce que j'ai fait » ?
Il y a plusieurs choses en fait derrière cette phrase. Le fait que l'élève ait un sentiment de non-satisfaction par rapport à sa production. Et cela, il faut l'éviter.
Oui, mais comment faire ?
Tout simplement en lui demandant « mais est-ce que je t'ai demandé et qu'est-ce que je t'ai demandé moi au départ ? Est-ce que je t'ai demandé dans ma consigne de produire quelque chose de beau ?» Ben non. Tu aurais sûrement demandé autre chose. Donc, on va lui montrer que ce qu'il a fait, eh bien, c'est déjà, ça répond plutôt au questionnement et à la réflexion que tu lui as demandé, plutôt qu'à un objectif qui serait de l'ordre du beau. Dans un second temps, lui montrer que sa conception du beau est tout à fait subjective. C'est ce qu'il lui pense et il a le droit de le croire, mais ce n'est pas forcément quelque chose de partagé. L'idée de beauté, comme du lait d'ailleurs, dépend de ses émotions, de son vécu, de plein de choses différentes. C'est pour cela qu'on n'évalue pas les travaux en art plastique sur une notion de beauté ou de bienfait. Puisque ce sont des objectifs subjectifs et que le but n'est pas non plus d'évaluer une maîtrise technique.
Mais alors, si c'est pas le beau qu'on évalue, c'est quoi qu'on évalue ?
Ce sont des savoirs, comme dans toutes les disciplines. La particularité, c'est qu'en art plastique, ce sont des savoirs en acte, qu'ils prennent forme au travers de la pratique des élèves. Et ensuite, il faut les faire verbaliser, les mettre en mots. Mais aussi, l'évaluation d'art plastique est considérée comme un moyen pour l'élève de construire sa réponse. C'est-à-dire que tu dois donner dès le début les compétences sur lesquelles les élèves vont être évalués.
Tu peux me donner un exemple ?
Oui, bien sûr. On va dire que l'utilisation expressive de la couleur en cycle 2. Déjà, qu'est-ce qui est attendu ? Surtout, pas de stéréotypes du style « le rouge, c'est la colère » et « le vert, le dégoût », tu vois ce que je veux dire. Quand on parle d'expressivité des couleurs en art plastique, c'est la manière dont tu vas les utiliser. Par exemple, quand tu les associes à un geste, une matérialité. L'idée principale est de nommer ton intention plastique et ensuite de donner, de voir que ton camarade ne l'a pas utilisé pareil pour exprimer peut-être la même chose.
Alors ça va favoriser le fait que tout le monde ne fait pas pareil.
Et oui, on favorise aussi la diversité. Si on revient à la question de l'évaluation, tu auras par exemple « j'ai été capable d'utiliser ma couleur de manière expressive en l'associant à un geste, j'ai été capable d'expliquer mes choix pour exprimer une émotion ». Tu vois bien que tu évalues des savoirs en acte, des apprentissages plastiques et sensibles, c'est vrai, mais tu n'évalues pas le beau. Cela rassure l'élève car il a répondu à tes consignes et non pas à une idée de la production parfaite.
Ok, là on vient de parler des élèves. Et du côté des artistes, tu aurais quelques exemples d'œuvres d'art qui font référence et pourtant qui ne correspondent pas forcément au canon classique de l'esthétisme ?
Tu vois Thomas, là j'aurais beaucoup de mal à te répondre parce qu'en fait, ça voudrait dire que je pars d'une idée préconçue de ce qui est l'esthétisme et le beau. On est sur des questions de philosophie et d'esthétique de l'art ici. À travers les époques, on s'aperçoit que les goûts ont changé, que l'esthétique a changé. Donc oui, effectivement, il y a des œuvres qui sont venues bousculer les conceptions de leur époque. Mais certaines de ces œuvres sont maintenant considérées comme belles. Donc on voit bien ici que l'on est dans quelque chose qui s'ancre dans une époque et dans un moment.
Tu as des exemples d'œuvres pour lesquelles les points de vue des spectateurs ont évolué ?
Si je te dis par exemple que l'Olympiade Manet, quand elle a été exposée, a déclenché des protestations énormes. Il y avait même des personnes qui voulaient détruire ce tableau, parce que pour eux, c'était irregardable. Cela ne pouvait absolument pas être considéré comme de l'art.
Ouais, mais là, tu nous parles de quelque chose du siècle passé.
Mais on pourrait remonter encore plus loin. Par exemple, les œuvres de Caravage, qui aujourd'hui sont considérées comme des chefs-d'œuvre absolus partout à travers le monde, étaient pour certains contemporains du Caravage inadmissibles. Alors, pour plein de raisons différentes, hein, par rapport à leur sujet, par rapport à leur manière de peindre, par rapport aux couleurs, par rapport à la lumière. Mais elles étaient pour une certaine catégorie de personnes inacceptables. D'ailleurs, beaucoup de ces œuvres ont été refusées. Mais au-delà de cela, les sujets comme la guerre, la pollution, la souffrance ne sont pas des sujets que l'on pourrait appeler beaux. Et pourtant, de nombreux artistes les abordent car ce sont des questions d'actualité et ils s'engagent en tant qu'artistes et individus.
Et alors Picasso ? C'est beau ou c'est pas beau ?
Ah oui, bah bon exemple. Je suis pas certaine que Picasso recherchait la beauté, par exemple, dans Guernica. Cela n'empêche pas que nous puissions être sensibles aux choix plastiques faits par l'artiste. La déformation, le noir et blanc, la composition, le format qui est extrêmement important, et de fait de ressentir une émotion. Il nous fait vivre une expérience sensible par des moyens plastiques sans préoccupation d'esthétisme ou de beau. Comme beaucoup d'artistes contemporains d'ailleurs qui travaillent sur la pollution et récupèrent des matériaux recyclés par exemple. Chacun est libre d'avoir son jugement esthétique.
Et c'est à ce moment-là que l'art va déranger, va bousculer ?
Oui, l'art nous bouscule, il ne nous fait pas, il nous laisse pas sur nos acquis. Les artistes sont des empêcheurs de rester tranquilles dans nos chaussons de schéma de pensée.
Mais alors si c'est pas le beau qui est visé par les œuvres d'art, qu'est-ce que c'est ?
C'est l'étonnement. La surprise, le questionnement qui peut être « j'aime, pas, j'aime ». On a le droit, mais le plus important, c'est de savoir dire pourquoi. Tout cela ne veut pas dire qu'aucun artiste ne cherche pas à exprimer une forme de beauté.
Mais alors du coup, là, avec ce que tu nous dis, art plastique et éducation morale et civique se rejoignent, non ?
Oui, les arts sont un moyen de communiquer, d'accepter l'autre, les points de vue, s'ouvrir à l'altérité et ne pas se conformer à des normes préétablies, de casser les stéréotypes. Tu vas les former à l'esprit critique.
Ça, pour les plus grands, ça me paraît assez facile. Mais en maternelle, ça peut se corser un peu. Surtout quand un adulte est présent sur un atelier en tutelle. Comment d'ailleurs tu vas gérer la présence de cet adulte sur l'atelier ?
Il sert à gérer le matériel. Non, je plaisante, pas uniquement. C'est les accompagner peut-être pour les débloquer, les inciter, les encourager. Mais surtout, ne pas leur montrer ce qu'ils doivent faire. L'adulte ne doit pas avoir une image de la production idéale et parfaite, jolie et bien propre. Tu vois, on revient au fait à ce que l'on ne vise pas le beau ni le bien fait.
Et une fois que les productions sont finies, les élèves aiment bien donner à voir ce qu'ils ont fait. Comment on va réussir à valoriser les travaux des élèves ? Comment on va pouvoir les mettre en scène ?
Ce qui semble le plus évident, c'est d'afficher les travaux. En maternelle, faire des affichages aussi. Mais ce qui est vraiment intéressant pour les élèves, c'est de réfléchir eux-mêmes à leurs moyens d'exposer leur production. Tu ne pourras pas faire cela tout le temps, bien sûr, mais ponctuellement. En plus, c'est un apprentissage des programmes. Par exemple, une fois qu'ils ont produit leur réalisation, tu peux leur demander de penser à la meilleure façon d'exposer leur réalisation dans la classe, ou dans l'école, ou dans le couloir. Tu pourras aborder avec eux les notions de cadre, de socle, de cartel. Mais cela peut être aussi des élèves qui te disent que leur travail serait mieux sur la vitre, car elle est transparente et que comme ça, la lumière, elle pourra passer. C'est les faire réfléchir à la mise en scène et aux modalités de présentation et au rapport œuvre-espace de présentation.
C'est chouette ça. Mais alors du coup, dès le début, ils peuvent avoir en tête comment leur production va être affichée ? Bon, jusqu'à maintenant, on a bien travaillé tous les deux. Mais est-ce que ça te dirait d'aller rencontrer un professeur des écoles dans sa classe ?
Ah bah oui, super idée ! On y va ? On pourra l'interroger sur l'évolution de sa pratique et comment il différencie dans sa classe.
Alors à bientôt, dans une classe, Caroline.
À bientôt, Thomas.
Merci pour votre écoute. C'était votre podcast. Faire des arts plastiques dans sa classe ? Oui, mais comment ? Présenté par Thomas Gérard, conseiller pédagogique art, et Caroline Mélisse, formatrice en arts plastiques.